Poussez les portes des laboratoires de recherche avec Sciencez-vous, une série de podcasts dans les coulisses de la science.
Rencontrez des scientifiques des universités de Bretagne Occidentale et Bretagne Sud ou de l'École nationale d'ingénieurs de Brest.
Sociologie,
géographie,
mathématiques,
océanographie,
chimie ou encore robotique,
Sciencez-vous vous fait explorer toutes les sciences pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Sciencez-vous, nous nous intéressons au projet Futurisk, porté par, entre autres, Catherine Meurferec et France Floch. Catherine Meurferec est professeure à l'Université de Brest, géographe spécialiste des littoraux. Elle travaille depuis une trentaine d'années sur les questions des littoraux, des dynamiques naturelles, mais aussi de la gestion intégrée des zones côtières et plus spécialement la question des risques côtiers. Elle s'intéresse à l'érosion, la submersion dans un contexte de changement climatique. France Floch est enseignante-chercheure à l'UBO. Elle travaille sur l'interaction entre les vagues et le transport de sédiments et l'influence des vagues sur le niveau d'eau à la côte.
La question est de travailler sur ces problématiques-là.
Catherine Meurferec.
Comment les territoires côtiers peuvent s'adapter aux problèmes d'érosion, de submersion, qui sont aggravés dans un contexte de changement climatique, notamment par la remontée du niveau marin. Ce sont des territoires particuliers, puisque ce sont des territoires dans l'outre-mer tropicale. Donc on a aussi des phénomènes naturels qui sont notamment plus forts qu'en métropole, hein, tout ce qui est houle cyclonique notamment, qui exposent donc ces territoires qui, dans leur organisation aussi sociale, sont particuliers par rapport à la métropole. Donc il y a vraiment une spécificité de ces territoires d'outre-mer et de la façon dont ils peuvent ou ils vont pouvoir s'adapter à ces problèmes d'érosion et de submersion.
Il y a deux parties dans le projet de recherche.
France Floch.
Donc pour ma part, je vais travailler plutôt sur la partie physique avec des collaborateurs de l'ensemble du pays, outre-mer et métropole. Et on travaille sur l'influence des vagues sur la submersion, donc sur le niveau d'eau à la côte, puisque les récifs coralliens ont une particularité, c'est leur bathymétrie qui est très particulière. Ils ont une bathymétrie très abrupte à 500 mètres de la côte environ. Et puis il existe différents types de récifs en plus qui complexifient en fait la propagation des vagues vers la côte et qui va fortement influencer le niveau d'eau à la côte, donc le niveau de submersion. Et avec les connaissances qu'on a sur les plages plus classiques, je dirais, il n'est pas possible actuellement de prédire le niveau d'eau à la côte. La bathymétrie, c'est la position du fond des océans, une position de, on parle de topographie sur la Terre et de bathymétrie quand on est sous l'eau.
La deuxième partie, elle est plus constituée de géographes. En fait, c'est interdisciplinaire, donc on va travailler ensemble. Hein. Mais à l'origine du projet futuriste, il y avait deux projets qui étaient différents. Un qui était plus porté par des physiciens, des modélisateurs, et un autre qui était davantage porté par des géographes. Pour simplifier, hein, c'est plus compliqué que ça. Et donc ensuite, ces deux projets qui sont portés par l'Université de La Rochelle ont été regroupés en un seul projet. Ce qui fait que c'est intéressant aussi parce qu'on se retrouve mélangés complètement, les géographes, les physiciens, et on continue à avoir une approche qui est un peu différenciée. Hein. France, qui est là, est vraiment, elle, spécialisée, elle l'a dit, hein, dans des questions de physique et de modélisation. Moi, plus dans des questions d'aménagement du littoral. Voilà, on se connaît, mais on ne va pas travailler totalement ensemble. On a des terrains aussi qui sont différents, en fait, selon les différentes équipes.
Sciencez-vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U, Radio Calonne et Radio Balise.
Le projet Futurisk, c'est un PPR océan-climat, hein, dans notre jargon. Le PPR, c'est un projet prioritaire de recherche.
Catherine Meurferec.
En fait, ce sont des appels à projets qui sont lancés par l'État, hein, via l'ANR, qui est l'Agence nationale de la recherche. Et donc, les chercheurs peuvent répondre à des appels à projets pour avoir des financements pour monter ces projets. Et ce projet PPR océan-futurisk a été monté par les collègues de La Rochelle. Hein, dans le monde de la recherche, en fait, sur ces thématiques-là, on se connaît les uns les autres, dans les différentes universités françaises et à l'étranger. Et donc, il y a des porteurs de projets. C'est un peu aussi, parfois, chacun son tour va porter un projet et va appeler les collègues qui ont envie d'y participer à former des équipes. Donc là, Futurisk vient de l'Université de La Rochelle, de deux collègues qui sont Xavier Bertin, donc en physique, et puis Virginie Duvin en géographie, qui ont monté ces projets, qui se sont ensuite réunis et qui ont fait appel à nous, en fait. Ben, on se connaît, hein, forcément, on se rencontre assez souvent, pour participer à l'équipe. Mais c'est un très gros projet. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'il y a une cinquantaine de chercheurs, enseignants-chercheurs, dans le projet Futurisk, qui rassemble donc des collègues de la France entière. Et de beaucoup de l'outre-mer, bien sûr.
L'objectif principal, je dirais que c'est... in fine, de faire communiquer beaucoup plus les physiciens et les géographes.
France Floc.
Il faut qu'on arrive à avoir des plans de gestion des risques submersion plus pertinents pour les communes d'outre-mer, qu'elles puissent davantage prévoir, grâce à la physique, quand vont arriver les submersions selon les conditions de vagues et de vent et climatiques et le relief de leur île. Et avec les géographes, ils mettent en place des plans de gestion pour que la population puisse se prémunir de risques d'inondation dans les habitations.
C'est vraiment le projet futuriste qu'il est orienté sur les solutions. C'est essayer, alors trouver des solutions, c'est ambitieux, mais en tout cas de proposer plusieurs gammes de solutions, parce qu'il n'y a pas qu'une seule solution, c'est sûr que c'est mélange de plusieurs solutions. Et ensuite de voir comment les populations, les collectivités, les communes, les différentes collectivités territoriales, les habitants aussi, peuvent s'approprier les différentes solutions qui peuvent être proposées. Hein, parmi les solutions classiquement évoquées, quand on fait face au risque de submersion et d'érosion, voilà, on peut choisir soit de se barricader, d'essayer de se protéger avec des gros ouvrages, hein, mais qui ne sont jamais pérennes finalement. On peut essayer d'accommoder le bâti, de transformer les constructions. On peut parfois décider qu'on est trop exposé, c'est trop dangereux et il vaut mieux essayer de relocaliser les habitations ou les infrastructures qui sont exposées. Voilà le genre de solution, mais auquel il faut réfléchir en fonction de tous les paramètres physiques, mais aussi de tous les paramètres sociaux d'organisation de la société, de financement public, de politique publique. Donc toutes ces questions-là sont plus abordées. Alors on a dit les géographes, les physiciens, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des politistes, hein, il y a aussi des juristes dans Futurisk. Donc voilà, ça montre aussi la complexité de ces questions-là et la richesse qu'il y a à les aborder selon plusieurs angles de différentes disciplines.
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U, Radio Calonne et Radio Balise.
Donc, dans le cadre de Futurisk, on a évidemment chaque année des grandes réunions qui permettent de mettre tout en commun, surtout les informations. Mais surtout, on a beaucoup de terrains qui sont prévus sur énormément de sites. Par exemple, donc nous, on était à La Réunion il y a quelques temps. Il y a une énorme campagne de terrain qui est en train de se préparer sur Rangiroa, au milieu du Pacifique, où il y aura beaucoup de mesures et beaucoup de chercheurs qui vont y participer, ce qui permet aussi de mixer les équipes qui viennent de différents endroits, de différents outre-mer aussi, qui vont se retrouver sur un seul site. Il y a eu une campagne à Mayotte aussi, et vous avez des campagnes peut-être à Guadeloupe. Les géographes vont aller en Nouvelle-Calédonie également.
Oui, en fait, concrètement, sur le terrain, on ne travaille pas à 50, hein, ce n'est pas possible. Donc, à part les grandes réunions qu'on a à peu près 2 fois par an, on va travailler en équipe sur des terrains. Là, on est allé au mois de mars, par exemple, en Nouvelle-Calédonie. Et on va. Donc, nous, on a fait des enquêtes auprès des gestionnaires des risques côtiers. Après, bien sûr, chacun rentre chez soi là, pour travailler. J'étais avec une collègue qui est politiste, qui est à Paris. Et puis, les collègues qui sont en Nouvelle-Calédonie, qui sont géographes en Nouvelle-Calédonie et d'autres qui sont à Mayotte. Et donc, on s'est retrouvés ensemble sur le terrain. Ensuite, chacun rentre dans son laboratoire et on travaille, bien sûr, à distance. Ce matin, à 7h du matin, j'étais en visio avec mes collègues de Nouvelle-Calédonie et de Mayotte pour avancer sur des articles qu'on prépare ensemble. Donc, c'est sûr qu'ensuite, il y a une grande partie qui se fait à distance. On échange par mail presque quotidiennement, peut-être pas, mais au moins une fois par semaine. Et puis, beaucoup de visio. On se voit beaucoup en visio. Alors, on a des gros décalages horaires avec l'outre-mer, donc ça nous fait parfois des horaires un peu spéciaux de travail. Mais voilà, l'important, c'est que sur le terrain, on se rencontre, on se connaissait un peu déjà, mais de passer du temps sur le terrain fait qu'on se connaît mieux. Et ensuite, c'est facile de travailler à distance. Travailler à distance, c'est possible quand les gens se connaissent. C'est très difficile quand les gens ne se connaissent pas. Mais si on se connaît déjà, ça se fait bien. Sur le déroulé, donc futuriste, ça dure 6 ans, ce qui est déjà une chance parce que souvent les projets de recherche, c'est plus court. C'est souvent 3 ans. Donc là, 6 ans, on a le temps d'avancer. Et si je ne me trompe pas, on doit être à la fin de la 2e année. Donc on commence à avoir effectivement des résultats. Nous, on a démarré le terrain par la Nouvelle-Calédonie, donc où on a fait des enquêtes et on est en train là, de les analyser aujourd'hui pour comprendre les systèmes de gestion des risques côtiers sur un territoire très particulier avec un statut d'autonomie qui est très spécial. Donc il y a beaucoup de lois qui existent en France, par exemple, qui ne s'appliquent pas. Et donc, essayer de comparer les deux systèmes et de voir qu'est-ce qui peut poser des difficultés supplémentaires. Et on connaît aussi toutes les difficultés que vit aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qui peut aussi être peut-être inspirant pour ce que nous, on fait dans la France hexagonale. Donc là, on est en train de terminer un premier article sur cette question-là. Ça pose un peu les bases pour ensuite continuer. Alors, il y a beaucoup de... Il y a, je crois, 4 doctorants qui sont actuellement sur un projet de thèse. Donc la thèse, ça dure 3 ans, sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Donc là, les choses vont vraiment pouvoir être approfondies. Pour l'instant, c'est un peu, on pose un peu le paysage. Qui fait quoi? Quelles sont les différences dans les systèmes politiques français et puis calédoniens? Et puis sur les Antilles, démarre une thèse là, que je vais diriger, hein, qui est Johanna Barros, qui va travailler plus spécifiquement sur la solution de la relocalisation. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Est-ce que ça va être facile ou pas à faire sur les territoires de Antilles, donc Guadeloupe et Martinique. Donc ça, c'est plus sur une des solutions parmi d'autres. Comment est-ce qu'on peut avancer sur cette question-là ou qu'est-ce qui bloque? Et est-ce que le fait qu'on est sur ces îles, territoires d'outre-mer des Antilles, est-ce que ça accélère, ça facilite les choses ou au contraire, est-ce que ça va apporter des freins supplémentaires à ce qui existe dans la France hexagonale?
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U, Radio Calonne et Radio Balise.
Peut-être la première difficulté, c'est l'organisation du terrain. Quand on doit aller faire des campagnes de mesure qui sont à l'autre bout de la planète, il faut pouvoir emmener tout le matériel là-bas, avoir des autorisations particulières, puisque même si c'est de la France à la France, on passe par des douanes des deux côtés. Donc ça va... peut être très chronophage d'organiser ce genre de mission. Et puis après, une fois sur le terrain, c'est vrai qu'on avait prévu, par exemple, 2 semaines à La Réunion et qu'on pensait qu'on était large en temps. Et en fait, le matin où on prenait l'avion, on était encore sur le terrain en train de faire des mesures parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne marche pas, un peu à la MacGyver, quoi. C'était les doctorantes, on en a beaucoup, on en a 4 ou 5 aussi, ont adoré. Et c'est étonnant, on n'a que des filles dans ce projet. Hein. Et que des MacGyver féminins. L'autre difficulté, c'est le système un peu, je dirais, complexe administratif français qui fait que dans un projet où il y a 50 de chercheurs, les PPR dont parlait Catherine, c'est un nouveau mode de fonctionnement de la recherche française. Et je ne sais pas si ça va durer dans le temps, mais d'avoir 50 de chercheurs dans différents instituts, ça fait que 2 ans après le début du projet, on n'a toujours pas l'argent que l'État devait nous donner. Et ça complexifie beaucoup les choses puisqu'on doit trouver de l'argent sur d'autres projets pour financer celui-là.
Parmi les autres difficultés qu'on rencontre, qui sont aussi propres à ces territoires d'outre-mer, là, c'est qu'on a des contextes politiques et sociaux qui sont souvent difficiles. Et là, il se trouve que voilà, il y a les événements de Nouvelle-Calédonie, évidemment, qui compliquent pas mal les choses. Et aux Antilles également, puisqu'on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de manifestations sur la vie chère. Donc on arrive sur des territoires qui, bien qu'ils soient français, sont très différents, bien sûr, de l'Hexagone. Il faut qu'on ait des contacts étroits avec les collègues qui sont sur place. On ne peut pas arriver sur ces territoires-là voilà, comme ça. Il faut préparer beaucoup le terrain, il faut beaucoup travailler avec les gens qui sont sur place. Il faut qu'on soit accepté aussi, qu'on n'ait pas cette impression là qu'on débarque dans d'anciennes colonies et puis qu'on va donner des leçons aux uns ou aux autres. Donc ça demande peut-être plus de précautions, plus de préparation, plus d'insertion que quand on travaille tout simplement dans la France hexagonale.
Le projet en lui-même, je trouve, est une belle réussite puisque il y a plusieurs aspects. Donc, comme disait Catherine, on a déjà regroupé l'ensemble des chercheurs français travaillant sur les récifs, sur les environnements récifaux, en tout cas sur les zones outre-mer qui avaient des risques de submersion, à la fois en physique et en géographie. Donc, que ce soit déjà rien qu'en physique ou en géographie séparée, c'était déjà des beaux projets, mais en plus tout le monde ensemble, ça permet un regard croisé sur l'ensemble des problématiques qui est incroyable. On a tous les collègues d'outre-mer qui sont très présents. et qui parfois avait une recherche un peu isolée, malheureusement, par rapport à la métropole. Et ce projet permet vraiment de mettre tout le monde, en rang, hein, si on veut. Tout le monde se met d'accord et on a aussi tous les aspects pratiques, bonnes pratiques de travail, qui le partage de données, le partage d'informations, le partage de façons de faire, qui est vraiment une belle réussite de ce projet.
Je pense que les belles découvertes, c'est aussi beaucoup des découvertes ou des redécouvertes humaines, c'est-à-dire des collègues qui sont souvent très loin, qu'on connaît vaguement, mais là, on a l'occasion de passer du temps avec eux. Je pense que ça renforce les liens qu'on a avec eux. Ça étend nos réseaux aussi. Et pour nos étudiants, c'est intéressant. Là, mes collègues m'ont envoyé ce matin une offre de stage pour un stage à Mayotte de 6 mois. Je pense que les étudiants ici du master EGEL, expertise et gestion de l'environnement littoral, j'espère, ils vont répondre. Mais voilà, ça élargit les horizons. Et ça permet de renforcer les liens humains, alors pas uniquement avec les chercheurs d'outre-mer, mais aussi avec les chercheurs qui sont sur la France hexagonale. Hein, mais tous ces projets de recherche de grands groupes font que, après, selon les affinités, on va renforcer des liens avec certains collègues. J'ai rencontré aussi une politiste de Paris que je ne connaissais pas à Sciences Po, et on travaille ensemble avec grand plaisir. Donc c'est sûr que humainement, on gagne beaucoup de choses, et automatiquement, si on fait des nouvelles équipes de recherche, on va avancer aussi plus vite sur nos thématiques de recherche.
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U, Radio Calonne et Radio Balise.
Alors, les applications, dans les différents travaux qu'on va faire, je dirais au niveau physique, si je parle de la physique, la partie, moi je vois ça, au niveau origine du processus physique, on part des cyclones, tu as parlé tout à l'heure d'ondes cycloniques. Donc les cyclones vont amener beaucoup d'énergie au système et vont créer des énormes vagues. Donc on a des collègues qui vont vraiment essayer d'amener des solutions sur comment mieux prédire les cyclones. Actuellement, les modèles numériques océanographiques ne sont pas capables de le faire parce qu'ils n'ont pas des résolutions suffisantes. Et donc ce travail déjà va permettre des grosses avancées au niveau météorologique et prévision de l'influence des cyclones sur la mer. Ensuite, on travaille sur la propagation des vagues jusqu'à la côte et on va réussir, je l'espère, à vraiment prédire le niveau d'eau à la côte et être capable ensuite d'amener cette prédiction et de créer des réseaux d'alerte qui vont, eux, être utiles pour ensuite les gestionnaires qui auront comme ça une quantification de l'aléa et donc du risque de submersion. Et ça, c'est plutôt la partie de Catherine, ensuite, justement.
Et ensuite, c'est toute cette gestion du risque, j'espère, ce qu'on va apporter. Hein, mais bon, les gens qui sont sur place ne nous ont pas non plus attendus. Hein, ils font des choses sans nous. Mais l'idée, c'est un peu d'avoir cette analyse. Moi, les questions de gestion de risque côtier, je les connais bien en métropole. L'outre-mer, c'est des contextes très différents. Donc, c'est aussi avoir aussi un regard un peu décentré par rapport à ce terrain-là, voir qu'est-ce qui est comparable, qu'est-ce qui peut aider à faire avancer. Après, il faut savoir que nous, les chercheurs, on n'est pas des élus, on n'est pas des politiques, donc ce n'est pas nous qui ferons les choix. Mais j'espère qu'on pourra contribuer à les éclairer, à aider finalement les élus ou les services de l'État à avancer en se disant « Ah ben ici, ce type de solution, ça pourrait coincer parce que la population y est foncièrement opposée. Il vaudrait peut-être mieux travailler sur une sensibilisation. » C'est un peu aussi préparer le terrain et j'espère éclairer les choix de ceux qui sont élus et qui sont là pour décider, justement, pour faire ses choix. Donc c'est ça l'ambition, c'est pas forcément uniquement technique, on a besoin de la technique, mais on sait bien que pour analyser la vulnérabilité d'un territoire, il n'y a pas que la force des vagues et l'exposition des bâtiments, il y a aussi toute la société qui est derrière, la façon dont elle va recevoir des propositions d'aménagement, et on sait bien que parfois il y a des projets qui s'effondrent parce que le terrain est mal préparé et que finalement l'opposition systématique à toute proposition va bloquer l'avancée de l'adaptation. Donc l'adaptation, c'est compliqué, c'est des questions de physique et c'est aussi des questions sociales.
À La Réunion, il y a beaucoup de mesures qui se font depuis plusieurs années déjà. Mais là, dans le cadre de Futurisk, on a vraiment pu regarder l'influence de beaucoup de facteurs sur le niveau d'eau. Et les premiers résultats, déjà, sont qu'il y a beaucoup de phénomènes résonnants qui se font à l'intérieur du récif. C'est un récif particulier, c'est un récif frangeant. C'est-à-dire que les vagues déferlent à 500 mètres de la côte et ensuite peuvent créer des ondes qui rebondissent, en fait, en quelque sorte, qui ont des longueurs d'onde d'une quinzaine de minutes. Et ces longueurs d'onde, finalement, ces périodes d'une quinzaine de minutes se retrouvent sur le niveau d'eau et peuvent contribuer parfois à presque 45% au niveau d'eau total, surtout pendant les événements extrêmes. Donc on peut se retrouver avec parfois 3 mètres de niveau d'eau à la côte supplémentaire au niveau moyen qu'on a au large. Donc les plages peuvent être parfois très plates, donc le niveau d'eau passe au-dessus, dont un mètre dû à ces ondes longues que jusqu'à aujourd'hui on négligeait totalement dans nos calculs. Et on voit que c'est pendant les événements extrêmes, ce ne sont pas des composantes négligeables du tout.
Donc aujourd'hui, on est grosso modo à un tiers du projet, enfin en tout cas du parcours en temps, je dis bien en temps. Quelles sont les prochaines étapes pour ce projet-là?
On va avoir nos réunions globales avec tous les 50, là, deux fois par an. Ça va continuer régulièrement pendant toutes les années. Et après, je pense que les étapes vont dépendre pas mal des équipes. Les équipes, c'est beaucoup plus petit. C'est des groupes de... Enfin, ça dépend des équipes, mais ça va être plutôt entre 5 et 15 personnes qui travaillent en même temps. Il y a aussi beaucoup les binômes ou les trinômes entre les doctorants. Les doctorants, c'est une force très importante de ce projet. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais on a beaucoup de doctorants. Hein. Il y a bien une quinzaine de doctorants. Et donc là, les doctorants travaillent pendant 3 ans avec des directeurs de thèse. C'est pour ça que je dis binôme ou trinôme, parce que souvent, il y a 2 directeurs de thèse. Et les doctorants, c'est eux qui vont vraiment aussi porter le travail de terrain, récupérer beaucoup de données. Nous, on est des enseignants-chercheurs. Donc la moitié du temps, on fait de la recherche et l'autre moitié du temps, on enseigne, plus tout l'autre moitié encore du temps où on fait de l'administration, du montage de projets, enfin la vie quotidienne des enseignants-chercheurs. Donc la force de frappe pour être sur le terrain, récupérer de la donnée, on sait très bien que ce sont les étudiants, parfois de master et beaucoup de doctorat. Et nous, c'est dans cet encadrement et cette direction des thèses, en fait, qu'on va beaucoup interagir. Donc quand on dit, c'est quoi la suite? La suite, c'est qu'on a des thèses qui sont commencées. Moi, j'en ai une, mais qui est commencée que depuis 1 mois. Donc là, avec Johanna, on va aller ensemble sur le terrain, on va travailler. Et je sais que dans Futurisk, il y a déjà une bonne dizaine de thèses qui sont commencées depuis 1 an. Donc en gros, sur les 3 ans de thèse, la première année, on regarde un peu qu'est-ce que c'est son sujet, on fait beaucoup de biblios, on commence à préparer toute sa méthode. La deuxième année, on est beaucoup sur le terrain. En gros, et la troisième année, on analyse et on met tout ça en forme. Donc ça, c'est ce qui va se passer dans le cœur de Futurisk. C'est quand même qu'il y a une quinzaine, je me demande même si c'est pas plus, de thèses de doctorat, plus des stages de master, de master 1, de master 2. Et toute cette force de travail qui doit être dirigée, parce que ce sont des étudiants, c'est un peu aussi comme ça que se font les étapes de la recherche.
Merci.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci, au revoir.
Poussez les portes des laboratoires de recherche avec Science et vous, une série de podcasts dans les coulisses de la science.
Rencontrer des scientifiques des universités de Bretagne occidentale et Bretagne sud ou de l'École nationale d'ingénieurs de Brest.
Sociologie,
géographie,
mathématiques,
océanographie,
chimie ou encore robotique.
Science et vous fait explorer toutes les sciences pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U,
Radio Calonne et Radio Balise et avec le soutien financier de l'ANR.